Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro du magazine Le Confort dans l'Habitat. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'actualité, on vous donne les clés pour mieux consommer, plus économique et puis également pour réduire son empreinte carbone. On va s'intéresser ce mois-ci à la pompe à chaleur. Pourquoi est-elle l'option privilégiée par les particuliers? Et puis au-delà des individus, est-ce qu'elle peut être un bon choix pour les collectivités? Quels sont les avantages, les idées reçues sur les inconvénients? Quels sont les freins à l'adoption? Comment enlever les blocages? C'est ce que nous allons voir ensemble avec nos deux spécialistes. On a le plaisir d'accueillir en plateau Florence Delettre. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Florence, vous êtes directrice générale de l'association Promotelec. Et nous sommes également en compagnie de notre invité Emmanuel Chabut. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Analyse stratégique, régulation et transition énergétique chez EDF. Ça pose son nom et son sujet. Bienvenue Emmanuel. On commence avec vous Florence, c'est le premier numéro de cette rentrée. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à cette PAC pompe à chaleur?
Bien, pourquoi la pompe à chaleur? Parce que ça ne voudra pas échapper qu'on est... On est à la mise en application de la réglementation environnementale 2020, dont on a beaucoup entendu parler.
Et qui arrive à grands pas, hein,
et qui arrive à grands pas, 1er janvier 2022. Et puis, cette réglementation, bon, elle se substitue à la RT 2012 et elle fait un grand pas en avant vers la décarbonation, donc la construction neuve. Donc, pourquoi la PAC? Il y a un effet décarbonation. Le second point aussi, c'est la performance énergétique et environnementale. Donc, ça fait sens parce que quels sont les leviers pour décarboner? Quels sont les leviers pour consommer moins et donc être aussi plus performant? Je crois que la PAC est tout à fait l'outil adapté pour répondre à ses besoins.
Et puis on a vu ensemble, hein, lors d'un baromètre, d'une étude, que c'était effectivement privilégié par les particuliers. Juste une petite précision, tiens, pour ceux qui nous écoutent, RT 2012, RE 2020, l'idée c'est qu'on remplace le RT par le RE, réglementation thermique, par réglementation environnementale. Hein, c'est ça qui va jouer, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus seulement le thermique, mais également... Eh bien, tout ce qui est fait au niveau du carbone, c'est la grande nouveauté.
Voilà, tout à fait.
Emmanuel Chabut, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, cette pompe à chaleur, est-ce qu'elle permet vraiment de faire des économies?
Oui, tout à fait. Alors, comme l'a précisé Florent juste avant, hein, c'est une arme redoutable pour la transition énergétique écologique, grâce à sa vertu principale qui est de capter à peu près les trois quarts de son énergie dans le milieu extérieur ambiant, le milieu naturel. Donc, soit c'est dans l'air, dans le sol ou dans une nappe phréatique. Et donc ces trois quarts d'énergie qui sont renouvelables sont aussi totalement gratuites pour le client. Donc c'est en fait, Florence l'a dit tout à l'heure, hein, la pompe à chaleur, c'est donc trois quarts d'énergie renouvelable gratuite et un quart d'énergie bas carbone, l'électricité en France. Et donc effectivement, ça permet, si on se place par rapport à une chaudière gaz à condensation, de diminuer de 90% ses émissions de CO2 dans son logement et d'économiser à peu près un minimum de 50% sur sa facture énergétique annuelle. Donc oui, définitivement, la pompe à chaleur permet de réduire la facture du client.
Alors, facture, on va dire évidemment en espèces sonnantes et trébuchantes, en tout cas on verra sur la facture, mais également économie de planète finalement, puisqu'on va consommer moins les ressources fossiles en particulier.
Oui, tout à fait, comme je viens de le dire, hein, c'est que, comme c'est majoritairement de l'énergie renouvelable, donc totalement neutre, hein, pour l'environnement, et que c'est le résidu qu'on va utiliser pour alimenter la machine en elle-même, donc son compresseur en l'occurrence, c'est l'électricité, et en France, cette électricité est bas carbone. Donc le niveau d'émission de la pompe à chaleur est vraiment extrêmement bas. C'est environ moins 90% par rapport à une chaudière à condensation gaz.
Voilà. D'accord. Bon, hyper important, surtout à l'heure où le coût de l'énergie n'en finit plus de flamber. On l'a vu depuis le début de l'année sur le gaz. Alors on connaît les problèmes, hein, qu'on a sur la planète. Bah, ça repart post-pandémie, évidemment. Donc il y a des tensions. Là, il y en a qui sont très incités, hein, des particuliers qui sont très incités à basculer sur cette pompe à chaleur. Et on ne s'y trompe pas, parce qu'il n'y a pas, je sais pas, une semaine qui passe sans une incitation publicitaire, etc., à développer ou à remplacer ou à rénover pour cette pompe à chaleur.
Oui, bah, tout à fait. En fait, hein, la stratégie nationale bas carbone et puis à plus courte échelle, la programmation pluriannuelle de l'énergie donne des objectifs à atteindre, hein, en termes de réduction d'émissions CO2. Donc la SNBC, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Et la PPE, donc c'est à plus court terme, horizon 2030, mais déjà avec des baisses significatives. Et pour atteindre ces objectifs, en fait, on n'a pas 36 solutions dans le bâtiment. Hein. 80% des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment proviennent des usages thermiques. Et donc, il faut effectivement passer des énergies fossiles qui étaient utilisées auparavant pour chauffer vos logements ou vous produire votre chaude sanitaire. À des équipements bas carbone, c'est-à-dire en premier lieu la pompe à chaleur ou alors des raccordements à des réseaux de chaleur vertueux ou de l'utilisation de la biomasse. Mais on n'a pas le choix, en fait, si on veut atteindre ces objectifs-là donnés par la PPE et la SNBC, on sera obligé de substituer ces énergies fossiles par ces énergies bas carbone.
PPE.
Programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui, voilà. Je l'ai dit au début, mais c'est vrai que je n'ai pas rappelé l'acronyme. Mais voilà.
Il faut le dire, hein, les acronymes, on les traduit systématiquement dans cette émission.
Et SNBC, c'est bien la stratégie nationale bas carbone.
Ça, c'était entendu. Alors, si on a la chance d'avoir une maison ou si on est propriétaire de son logement, on comprend que les particuliers se sont vraiment rués sur cette pompe à chaleur. En revanche, peut mieux faire pour le logement collectif où les collectivités, Emmanuel Chabu, écoles, musées, pourquoi pas les commerces, il y a des dizaines de bâtiments qui pourraient également s'équiper en pompe à chaleur et du coup profiter encore plus largement de ces économies.
Oui, tout à fait. Alors déjà, moi je vais distinguer un petit peu le logement collectif du tertiaire, parce que c'est quand même deux secteurs qui sont très différents. C'est-à-dire dans le tertiaire, il y a aussi beaucoup de branches qui sont elles-mêmes très contrastées. Mais commençons par le logement collectif. Effectivement, aujourd'hui, la pompe à chaleur, c'est à peu près 10% des logements individuels, enfin des maisons individuelles qui sont équipées de pompe à chaleur, hein, pour des usages, en usage principal de chauffage. Tandis qu'en logement collectif, ça représente, la pompe à chaleur ne représente que 0,5% du parc en termes d'équipement. Donc effectivement, il y a une vraie disparité entre les deux marchés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, déjà, alors souvent, les marchés sont amorcés par la construction neuve, hein. Donc ça a été le cas sur la maison individuelle, avec la RT 2012 qui a obligé une part d'énergie renouvelable dans la maison individuelle neuve. Mmh. Et donc on a vu effectivement la pompe à chaleur venir arriver massivement, pour arriver rapidement à peu près 50% de part de marché dans la maison neuve. Et on a eu une diffusion après sur le marché de la rénovation. Pour le logement collectif, la RT 2012 n'a rien imposé, qui aurait permis peut-être un décollage de la pompe à chaleur sur ce segment de marché.
Donc finalement, pas d'avancée significative ?
Alors, en 2012, non, il n'y a pas eu ce signal qui a permis à la pompe à chaleur de pénétrer le marché du logement collectif. L'ARE 2020, justement, change la donne, puisqu'elle introduit pour la première fois un critère carbone qui va concerner aussi le logement collectif. Alors, avec juste un petit effet de décalage, hein, d'un niveau temporel, d'un point de vue temporel, puisque ce sera vraiment à partir de 2025 que ce critère carbone pour le logement collectif va devenir contraignant. Et là, effectivement, la pompe à chaleur deviendra la solution de référence. Ouais. Après, d'un point de vue un peu plus technique, on va dire, dans le logement collectif, l'accès à la source froide, donc la façon pour la pompe à chaleur d'aller chercher ses calories gratuitement dans l'environnement extérieur, est parfois un petit peu plus complexe qu'en maison individuelle. Le placement d'une unité extérieure pour faire ce travail-là de récupération des calories gratuites est parfois un petit peu plus compliqué, un peu moins évidente qu'en maison individuelle. Donc ça peut aussi expliquer ce retard de marché qu'il y a eu. Maintenant, des solutions existent. Elles sont nombreuses, elles sont disponibles. Par contre, je pense que le principal frein actuellement, c'est justement la méconnaissance de ces solutions par la filière. Donc de plus en plus d'opérations sont en train de se développer. Là. Donc il y a vraiment une multiplication des opérations pompe à chaleur en logement collectif. Mais c'est très récent. Et donc on espère qu'effectivement ces nouvelles opérations permettront de donner de la visibilité pour ce segment de marché et montrer qu'effectivement les solutions sont là et elles sont pertinentes.
Florence Delette, justement, au sein de l'association Promotelec, on œuvre pour que cette pompe à chaleur gagne de plus en plus les logements collectifs, les membres de l'association.
Oui, bon, d'une part, on œuvre comme on œuvre au quotidien sur les conseils pour un habitat plus confortable et puis bien évidemment décarboné. Donc là aussi, ça fait sens. Donc là, à nous de comme le disait Emmanuel, hein, de donner les techniques, les technologies qui s'offrent sur le marché et qui permettent justement de correspondre aux besoins ou du collectif ou du particulier, de donner aussi, je dirais, des conseils sur à la fois l'utilisation, sur aussi les aides possibles pour obtenir ces nouveaux moyens. Donc oui, c'est notre travail au quotidien.
Travail au quotidien. On passe, Emmanuel, aux idées reçues sur cette pompe à chaleur. Oui. Quels sont les freins, quels sont les points peut-être à creuser, à expliciter pour le grand public?
Alors, il y a plusieurs choses, hein, sur les idées reçues, sur les PAC. Donc effectivement, il y a peut-être deux, trois termes que je voudrais aborder peut-être en priorité. Alors déjà, la première idée reçue, alors je pense qu'il commence à être levé au fur et à mesure des années, c'est une pompe à chaleur, ça fonctionne pas, ou mal, ou très mal, quand il fait froid. Alors ça, c'est faut vraiment s'enlever cette idée reçue de la tête. Hein. Moi, j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à regarder le cas de la Suède. La Suède, c'est le premier pays en termes d'équipement pompe à chaleur ramené au nombre d'habitants, hein, parce que le plus gros marché de la pompe à chaleur, c'est la France en volume, mais ramené au nombre d'habitants, c'est la Suède. Et la Suède équipe, que ce soit ses bâtiments tertiaires ou ses bâtiments résidentiels, avec des pompes à chaleur partout. Et pas seulement des pompes à chaleur géothermiques, parce que souvent, on nous répond « oui, mais c'est de la géothermie ». Non, non, non. Et les pompes à chaleur aérothermiques, donc elles vont bien puiser les calories dans l'air extérieur, et qui est, vous vous en doutez, à des températures extrêmement froides,
ouais,
extrêmement basses.
La Suède n'est pas réputée pour avoir des hivers très doux.
Et ça marche très bien, et leurs factures sont réduites, et leur empreinte carbone est extrêmement faible en utilisant ces pompes à chaleur, y compris dans un climat très rigoureux.
Donc même s'il fait froid, très froid, la pompe à chaleur, ça marche par tous les temps.
Voilà. Après, c'est tout est une question de dimensionnement, mais ça marche même quand il fait très froid. Alors, pour ceux qui aiment la physique, hein, c'est pas très compliqué. En fait, c'est une histoire d'énergie. Hein. Quand on n'a plus d'énergie dans l'air ambiant, c'est quand on est à 0 degré, mais Kelvin, pas Celsius. Donc, c'est moins 273 degrés Celsius. Donc, vous imaginez bien que quand on est à moins 10 ou moins 15 ou moins 20 degrés, sur l'échelle Kelvin, c'est pas grand-chose, en fait. Mmh. Et donc, l'énergie entre un air qui est à moins 15 degrés et puis un air qui est à 20 degrés à l'extérieur, en fait, elle est assez minime. Donc vous avez toujours de l'énergie à aller récupérer, c'est juste une histoire de dimensionnement de la machine. Donc effectivement, les performances vont un petit peu baisser quand il fera plus froid, mais elles resteront tout à fait honorables. On a encore des coefficients de performance de l'ordre de 2, voire même de plus de 2 dans des températures négatives.
On est dans une émission qui s'appelle « Le confort dans l'habitat ». On sait qu'aussi le confort au niveau de la chaleur, de la température intérieure que chacun met dans son logement, elle est très personnelle finalement. Il y a des gens qui ont très très chaud à 19 degrés, oui. D'autres qui disent « mais c'est pas assez ». Quand on parle justement d'énergie suffisante pour la pompe à chaleur, on peut aller, on sera pas à moins 10 dehors et à 15 degrés dedans, du coup, on se dit il fait chaud.
Non, vous pouvez être à 20 degrés, à 22, même si vous avez envie, si vous êtes plutôt frileux, même si, bien sûr, on conseille toujours de réduire un petit peu la température intérieure pour optimiser sa facture et ses consommations d'énergie, mais justement, la pompe à chaleur, vu qu'elle consomme très peu d'énergie, les gens ont d'ailleurs tendance à augmenter leur température de consigne à l'intérieur des logements, quand ils sont équipés d'une pompe à chaleur.
Ouais. Qu'est-ce qu'on préconise, Florence, normalement, c'est quoi, 19-20 degrés, il faudrait.
On préconise 18 dans les chambres et puis 20 dans les pièces... Les pièces de vie.
Et puis baisser si on n'est pas là.
Et puis baisser si on n'est pas là.
Ouais, ouais. Surtout qu'il y a quand même maintenant beaucoup de systèmes. On a fait des émissions là-dessus, normalement sur le smart ou la maison connectée, qui fait qu'il y a des systèmes qui réduisent automatiquement. Alors donc, première idée reçue, Emmanuel, vous nous avez dit, ça fonctionne, même s'il fait froid ou très froid, ça marche en Suède, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Autre idée reçue.
Alors le bruit, alors effectivement souvent on entend parler du bruit, alors déjà quand on parle de bruit d'une pompe à chaleur, hein, on parle bien de l'unité extérieure, hein, c'est silencieux à l'intérieur du logement bien sûr. Alors effectivement il y a des gens qui font référence à des produits pompe à chaleur qui ont maintenant une quinzaine d'années, donc peut-être qu'il y a eu une période où effectivement les unités extérieures étaient relativement bruyantes. C'est plus le cas maintenant, et d'ailleurs entre la pompe à chaleur d'aujourd'hui et la pompe à chaleur d'hier, hein, même pas celle d'avant-hier, mais d'hier, on a déjà fait un effort d'une dizaine de décibels en termes de puissance acoustique, ce qui représente un bruit, en tout cas un bruit ressenti, au moins deux fois inférieur à la pompe à chaleur qu'on avait hier dans nos logements. Donc il y a des normes, hein, il y a des exigences qui sont de plus en plus contraignantes, et donc là on est à des niveaux de bruit qui sont tout à fait acceptables.
Ça se rapproche de l'aspirateur ou du ventilateur ?
Alors en fait, on est sur une zone de puissance acoustique qui correspond à peu près au lave-vaisselle ou voilà, c'est à ce type d'équipement. D'accord. Mais pour l'unité extérieure, hein, donc c'est juste une nuisance potentielle à l'extérieur du logement.
Le voisin ne viendra pas
Normalement,
râler,
non. Ça a été le cas dans le passé, normalement ce n'est plus le cas.
Autre sujet concernant la climatisation, c'est vrai qu'il y a souvent une question sur la pompe à chaleur, on se dit ça fait du chaud, est-ce que ça peut faire du froid ?
Oui bien sûr, alors d'ailleurs ça peut faire partie des idées reçues, c'est-à-dire qu'une pompe à chaleur, maintenant toutes les pompes à chaleur, qu'elles soient sur vecteur eau ou sur vecteur air, sont réversibles. Donc elles permettent de faire à minima du rafraîchissement pour les pompes à chaleur sur vecteur eau et de la climatisation pour les pompes à chaleur sur vecteur air. Alors là c'est pareil, l'usage climatisation est souvent un peu décrié, souvent stigmatisé avec une image assez négative. Alors, je vais juste rappeler quand même quelques chiffres, parce qu'on entend parfois dire que c'est quelque chose qui est très consommateur d'énergie et qui peut avoir un impact environnemental assez important pour un confort qui pourrait s'apparenter à du luxe. Alors, je voulais juste quand même préciser deux, trois choses. Alors déjà, je pense qu'on devient de plus en plus à être convaincu que ce n'est pas seulement un confort, mais ça devient une nécessité avec le changement climatique. Et puis ensuite, il y a des ordres de grandeur à avoir en tête. La consommation de l'usage climatisation en France, en moyenne, c'est 0,4 MWh à l'année. Alors, 0,4 MWh, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en fait, c'est 30 fois moins que l'énergie que vous dépensez pour chauffer votre logement.
D'accord.
Que le besoin thermique que vous avez pour chauffer votre logement. Donc c'est 30 fois moins. Donc déjà, il faut avoir ça en ordre de tête. C'est pas un usage énergivore. C'est un petit usage énergétique du logement.
Oui, il faut dire qu'on n'a pas des canicules non plus, enfin, pour l'instant, à répétition, ou 50, 60 jours dans l'année.
Disons, 3-4 jours. Actuellement, en France, c'est ça. Et ces données-là, qui sont des données moyennées sur la France, incluent effectivement des systèmes qui ne sont pas toujours très performants, comme les climatiseurs mobiles. Donc si on se focalise vraiment sur les pompes à chaleur RR réversibles, donc celles qui sont préconisées pour avoir un usage performant de la climatisation en complément du chauffage l'hiver, bien entendu, là, on est sur des performances extrêmement élevées. Donc on a à peu près, pour 1 kWh d'électricité, vous allez extraire 6 ou 7 kWh d'énergie thermique. Donc c'est des performances en fait encore plus élevées qu'en mode chauffage, pour la simple et bonne raison que l'écart de température entre votre logement et l'extérieur est relativement faible quand vous climatisez. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir en tête, hein, en termes d'émissions CO2, la climatisation, c'est 150 fois moins que ce que vous émettez en chauffant votre logement avec une chaudière à condensation gaz.
Ouais, c'est bien de le préciser. Une dernière question justement sur cette PAC, la PAC hybride. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors la PAC hybride en fait, c'est une association entre une chaudière, qu'elle soit gaz ou fuel, et une pompe à chaleur, sous une même machine. Voilà. Donc la PAC hybride, en fait, alors faut faire attention à cette notion-là, c'est-à-dire que c'est pas une chaudière qui marche, on va dire, avec la même intensité que la pompe à chaleur. C'est vraiment une chaudière qui doit venir en appoint de la pompe à chaleur. Donc elle est bien là, elle est bien présente sous la machine, sous le capot de la machine, mais elle est là en appoint quand justement, par exemple, on peut avoir des conditions où on a besoin de beaucoup de puissance à ce moment-là, et il y a eu une volonté de minimiser le niveau de puissance de la pompe à chaleur. Donc c'est bien une pompe à chaleur, mais qui a un appoint chaudière. Et donc le taux de couverture qui doit être apporté par la PAC doit être au minimum de 70% pour continuer à avoir un système qui est vertueux vis-à-vis de l'environnement et qui permet de réduire la facture énergétique du logement.
Bon, on en sait un petit peu plus sur cette pompe à chaleur et pompe à chaleur hybride. Alors, la suite, Florence Delettre, comment on promeut aujourd'hui cette pompe à chaleur au sein de Promotelec ? Je crois que vous avez lancé une grande campagne déjà depuis mi-septembre, fin septembre ?
Depuis le 20 septembre, oui, sur une campagne digitale, donc pour rappeler ce que vient de dire Emmanuel, sur à la fois sur la nécessité d'avoir une PAC, pourquoi une PAC, et puis avec le fil conducteur qui est c'est pas idiot d'avoir une PAC, c'est pas idiot pour la planète, c'est pas idiot pour sa consommation d'énergie, c'est pas idiot non plus pour son budget, et puis bien évidemment continuer, comme je disais tout à l'heure, à informer par des campagnes et sur nos sites, sur des flash infos, l'usage et les recommandations pour une pompe à chaleur.
Les aides, est-ce qu'il y en a ? Est-ce que tout un chacun est éligible ?
Oui, ça fait partie aussi de toutes ces aides qu'il y a sur à la fois le global, hein, sur les isolations, sur ce qui est rénovation, sur changement de chauffage. Et il y a une série d'aides qui sont parfois nationales, qui sont aussi parfois locales ou régionales, qui sont même aussi des fabricants qui peuvent aussi abonder certaines primes qui existent et donc qui réduit fortement le coût global de cette PAC.
Pour ceux qui veulent se lancer, est-ce qu'il y a des points de vigilance, notamment les installateurs ? Est-ce que
les points de vigilance, il y en a toujours. J'ai entendu Emmanuel dire tout à l'heure une PAC bien dimensionnée, parce qu'il est clair que si vous faites appel à un artisan et qui n'est pas forcément qualifié ou moyennement qualifié, et puis le client qui regarde toujours le prix d'achat, c'est normal, on peut sous-dimensionner une PAC et donc du coup on va avoir ces problèmes qu'évoquait Emmanuel de dimensionnement inférieur ou même trop grand, et donc du coup une utilisation qui ne sera pas optimale. Je dirais que la grande recommandation sur les artisans, c'est que ce soit un artisan qui soit qualifié RGE, ça c'est la condition sine qua non, et puis bien évidemment qu'il n'en soit pas à l'installation de sa première PAC, et donc voilà, vérifier un peu les antécédents aussi pour qu'il installe bien et surtout qu'il conseille bien le client.
Oui, on peut les trouver où vous mettez en place, vous avez un réseau fer pour les...
Il y a un réseau fer, c'est toujours sur le www.fer.com ou .fr, je ne sais plus.
Ouais.
Voilà, là, vous avez toute cette série d'aides qui passent à la fois pour le crédit d'impôt, qui passent pour des primes coup de pouce, qui prime, des primes de l'ANA aussi. Et donc, vous pouvez avoir, des, selon aussi vos ressources, vous pouvez avoir quand même des réductions qui peuvent aller jusqu'à, jusqu'à 9 000 euros.
9 000 euros, c'est pas mal. Donc, à visiter hein, l'ensemble de ces sites internet, Association Promotelec et Réseau Fer. Alors, on termine avec vous, Emmanuel, puisque vous êtes notre invité du jour. On le sait en ce moment, un sujet un petit peu plus large, les énergies fossiles ont tendance à s'envoler, on le disait tout à l'heure. Quel scénario on peut imaginer pour l'énergie de demain ?
Alors, en tout cas, à l'échelle du bâtiment, ce qui est certain, hein, comme on l'a évoqué pendant cet échange, les énergies fossiles sont vouées quand même à disparaître progressivement du monde du bâtiment pour laisser place à des énergies bas carbone. Donc, au fur et à mesure qu'on va voir là, les années à venir progresser, on va avoir effectivement un déploiement massif des pompes à chaleur dans le bâtiment. On va avoir de plus en plus de raccordements au réseau de chaleur vertueux et on aura aussi une croissance de l'utilisation de la biomasse. Mais clairement, dans 10 ans, il n'y aura plus de fuel dans les bâtiments et le gaz, effectivement, va venir rapidement aussi décroître pour satisfaire les besoins thermiques du bâtiment.
On voit, hein, ça flambe déjà, si j'ose dire, au niveau des prix. Donc on se doute que le mix énergétique de par cette composante va être modifié. Merci en tout cas, Emmanuel Chabu. Je rappelle que vous êtes analyste stratégique, régulation et transition énergétique chez EDF. Merci Florence Delettre, directrice générale de l'association Promotelec. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Confort dans l'Habitat. À très bientôt.
Merci.
Merci.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.